Fréquence Mistral change. Écoutez-nous sur fréquencemistral.com.
Bienvenue sur Fréquence Mistral avec des invités aujourd'hui. Les invités, c'est Café Bertrand, il ne manque que Yuri. Bonjour messieurs.
Un grand bonjour à tous les amis de Fréquence Mistral.
Hola señor.
Si. Tout le monde est là. Bonjour pas Walter, tout bonjour Childé, bonjour Alain.
Salut.
Je pense que Yuri doit être de l'autre côté de l'écouteur probablement.
Exactement.
Écoutez, j'espère que ça va, on lui fait une bise parce qu'il a un peu des soucis avec son dos. Donc voilà, on lui fait une grosse bise à notre
yes.
Yuri qui n'est pas très loin. Et
on
n'a pas
la source.
Alors messieurs, vous venez de revenir de tournée. Vous étiez à Digne peu de temps, c'était au mois de mai dernier, où vous avez rempli le centre culturel René Char, oui, vous avez mis un peu le feu. Alors Walter, tu présentais d'autres compositions que le Café Bertrand en première partie.
Oui, on a profité de l'occasion de cette tournée qui s'appelait le Live chez toi Tours, qui est une tournée qu'on monte tous les 5 ans avec Café Bertrand et on se balade un peu partout. Et puis là, on a profité de ce passage à Digne pour pouvoir faire justement 4 ou 5 titres de mon album solo. Donc j'ai eu la chance pour l'occasion effectivement d'avoir les musiciens de l'album solo qui étaient là. Il y avait Duduche, le tromboniste du groupe Diablosone. Il y avait Childé qui était au clavier et au chœur. François Mercier à la batterie, Jean-Paul Avellaneda, merci, à la guitare et Alain Perusini de CAFB à la basse.
Ah, tu présentais ton album Stigmate.
Exactement.
On parle un petit peu parce que là c'est du live, donc Alain est en train de faire quelques réglages. Venu donc ici au studio de Mistral à Digne avec deux guitares, une basse, le chant et chœur, et vous allez jouer un petit peu selon le feeling, les morceaux que vous voulez interpréter.
Voilà, bah oui, on s'est dit qu'on pouvait venir passer une heure chez vous à Digne. On est venu avec les guitares, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire, mais bon, ça c'est pas très...
On va faire du CAFB en fait.
Et oui, ah, c'est ça. Pas mal. Voilà. Merci Alain,
de rien.
Parlez-nous un petit peu des instruments sur lesquels vous jouez. Toi Alain, tu as une basse un petit peu spéciale, c'est un luthier qui t'a fait cette basse.
C'est une basse baryon, c'est un luthier d'Aix-en-Provence. Donc voilà, qui m'a fait ça, ouais. Qui m'a fait ce que j'ai demandé.
C'est une basse 5 cordes sur laquelle tu joues.
Ouais, magnifique basse. Encore la 5e corde, c'est pour tout ce qui est un peu... bas quoi, enfin, pas infra, c'est pas de l'infrabasse, mais ça va chercher plus bas que la corde mi, que les cordes normales, que une basse 4 cordes.
Mm-hmm.
Donc c'est pas utilisable tout le temps, quoi, mais de temps en temps, ça fait un bon effet. Quoi. C'est,
mm-hmm.
Et puis en tant que bassiste, les basses, c'est, voilà, moi ça me prend, quoi, donc voilà, pour moi c'est important.
Et comme bassiste célèbre, quels sont les musiciens qui t'ont plus influencé, s'il y en a, bien entendu?
Il y en a plein, hein. De toute façon, Jaco Pastorius. C'est vrai que j'étais plus influencé par tout ce qui est américain, quoi, un petit peu, quoi. Comme la musique, en fait, c'est pareil. Hein. Roger Glover.
Par exemple.
Ça, c'est le premier bassiste, Smoke on the Water. Voilà, c'est la première ligne de basse que j'ai bossé. Comme tous les bassistes, je pense.
Sin Lizzy.
Ouais, Sin Lizzy, ouais, bien sûr.
Avec
ouais.
Phil Lynott.
En fait, Alino, c'est un grand fan de. Ça y est, j'ai zappé le mec qui a fait du.
C'est rare.
Miles Davis.
Miles Davis.
Tutu.
Tutu.
Vous voyez la drogue.
Miles Davis. Ah oui, je suis un grand fan de Miles. Ouais. Ouais, c'était à l'époque où je faisais. Du jazz, où j'ai fait...
C'est un jazz de rock'n'roll, Miles, hein. C'est du gros son. C'est certes du jazz, mais sur le tempérament du bonhomme et la musique comme il a pu l'appréhender, je trouve qu'il y a un côté...
Ouais, c'est en fait... voilà, c'est son côté primitif quoi, qui m'intéressait, en fait, ce côté minimaliste en fait, dans la musique. Donc en fait, ce mec-là, il a enlevé de plus en plus de notes pour arriver à l'essentiel, et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. À faire.
Ouais, et puis avec Marcus Miller à la basse,
Marcus
ça aide.
Marcus Miller, en fait, etc. Ouais. Ah bah oui, non, mais des bassistes, il a un paquet.
Thank you.
comme je la reconnais seule, qui se tient là devant moi, laissez-moi vous dire merci. Ô combien, madame, il suffisait simplement de regarder au fond de mes yeux, tout au fond pour voir s'il y avait encore du feu. Mais la flamme a changé, certes, mais plus belle et plus bleue, la même parfois un peu verte. Si on regarde mieux, si on regarde mieux, si on regarde mieux, on s'aperçoit que j'en ai fait les pompes sans me muscler les veines, et toutes les histoires que je raconte l'éloignent encore. Je la reconnais seule, qui se tient là devant moi, laissez-moi vous dire bonne chance. Ô combien, madame, il suffisait simplement de me croire un peu. Moi je n'ai jamais prétendu tutoyer les dieux, non, rien que des nuages. Je me suis contenté de ça, j'ai joué à l'enfant au passage. Vous en souvenez-vous, madame? Vous en souvenez-vous? Vous en souvenez-vous, madame? Vous en souvenez-vous, madame? J'en ai fait les pompes sans me muscler les veines, et toutes les histoires que je raconte l'éloignent encore elle. Mais devant, attention, face au vent qui venge, il s'arrange pour garder la température. Ma haine, je n'ai beau être qu'un caméléon, j'ai l'âme prête et seul d'un dragon, sans allure ni nation. S'est tenue devant moi, laissez-moi vous dire, ô combien, madame.
Alors, quel était ce morceau, Walter?
Alors, ce morceau, c'est un morceau qui s'appelle Les Vents, qui est très certainement le premier morceau qui a été composé sur l'album Les Airs Empruntés. C'est un album qui est sorti en 2005. Un album qu'on avait, qui nous tient à cœur et qui est un peu le... qui est un peu, comment on pourrait dire ça, le point de repère de CAF B. Autant pour les musiciens que pour les gens qui nous suivent, je trouve qu'on compare toujours tout à cet album. Alors après, il a une histoire, cet album. Il y a des morceaux dedans qui avaient des années déjà, qui avaient été beaucoup tournés. Et ce morceau, Les Vents, a été fait justement quand je suis arrivé dans les Alpes d'Haute-Provence. Je voulais saluer le Mistral, justement. C'était le nouveau Café Bertrand qui démarrait.
Café Bertrand a été créé dans les années 90.
92, oui.
23 ans, bel âge. Tu as toujours eu les mêmes musiciens, tu as changé en cours de route. Malheureusement, il y a Dom qui nous a quittés il y a peu de temps, malheureusement.
Mais écoute, c'est un groupe un peu atypique, parce qu'effectivement, comparé à d'autres groupes, comme par exemple Nord Désir, qui n'ont jamais changé de musicien, ou très peu, nous, on a eu des wagons quand même. Mais c'est normal, surtout dans les 10 premières années où tu te cherches un peu, etc. Entre temps, il y en a un qui a un gosse, qui se marie, qui ne veut plus faire de musique, il y en a un autre qui déménage, etc., etc. Le vrai gros départ de Café Bertrand, il s'est fait vraiment en 2002. C'est vraiment là qu'on est Moi, j'ai remonté le groupe et justement, il y avait Shieldé déjà. Avec nous, on avait un autre batteur qui était Gilles Vezin de Malmoisson, qui est un haut savoyard qui m'avait suivi et qui est resté là. Et puis voilà, c'est ce Café Bertrand, la vraie mouture. On dit toujours que c'est la dernière, que c'est la ça ne bougera plus, ça sera. Tu vois. Mais bon, voilà, la vie, c'est la vie. C'est comme ça. Dom nous a quittés, etc. Il fallait. Je voyais dans la continuité. Je voyais pas grand monde, justement, à part Shieldé pour reprendre le rôle de guitare lead, parce que c'est un sacré rôle dans Cave B. Et puis c'est un peu son petit frère spirituel. Donc moi, quand je joue avec Shieldé, je joue avec Dom quelque part aussi.
Là, il y a une belle osmose entre vous tous, de toute façon. Les quatre sur scène, donc dernièrement au mois de mai, c'était quand même assez fabuleux. Quoi. Il y a une complicité, vous jouez avec le sourire aux lèvres, ça c'est très important, parce qu'il y en a qui sont très constipés. C'est clinique, ce qu'ils font, ça peut être beau, mais c'est au niveau émotion, zéro, quoi. Là, il y a quelque chose qui se dégage de votre groupe. Quoi.
Bah, au début, quand on a un groupe et qu'on fait ses premiers lives, on, c'est un peu la matière première qu'on essaye d'insuffler. On se dit, on va mettre de l'émotion. Et souvent, on travaille trop. Je pense que pour arriver à l'ambiance qu'on a, nous, sur scène en ce moment, il faut un peu apprendre tout par cœur et un peu tout oublier. C'est un peu aussi rendez-vous au tas de sable. On a une confiance infinie les uns dans les autres, ce qui est énorme. Et puis, c'est Cave B, c'est quatre frangins, ça ne va pas chercher plus loin. Hein. C'est quatre mecs. Jamais un des quatre ne lâchera les autres.
Alors, rendez-vous au tas de sable, pour expliquer pour nos auditeurs, c'est un terme de musicien, c'est un cadre. Et les musiciens se baladent un petit peu dessus, mais ils sont, c'est régie, quoi. C'est, voilà. C'est le titre d'un film de Gottener aussi.
Exactement. Ah ouais. Où il y avait un superbe duo avec Django Edwards. C'était magnifique.
Ouais. Enfin, la voix de Django Edwards, c'était Bernie de Trust.
Ouais.
Et Café Bertrand, donc, j'ai cherché un petit peu, quoi. C'est le nom d'un club dans les années 30. Où il y avait du swing, c'est le premier club qui a été créé où il y avait du swing en France. C'était phénoménal à l'époque. Mais ton groupe, tu as donné ce nom de groupe par rapport à ça?
Oui, parce qu'on cherchait un nom de groupe. On était partis dans des trucs pas possibles à l'époque. Donc je te parle de ça, ouais, c'était en 91-92. Et puis on est tombé sur un reportage qui effectivement parlait du café de Flore à Paris. C'est le café de Flore aujourd'hui à Paris, et ça s'appelait le café chez Bertrand dans les années 30, et c'était effectivement un lieu où tous les ouvriers se réunissaient pour faire les premières jams. C'était un truc assez sympa, et il n'y a pas eu que Paris d'ailleurs, il y a eu aussi un bar en Lorraine qui a ouvert exactement dans les mêmes années, dans les années folles. Alors, d'ailleurs, on s'installe, on est un peu...
Comme chez vous.
À bord de la piscine, bien sûr.
Ah oui, il faut dire à tous nos auditeurs que là, on est en train de se prélasser sur des transats.
On a effectivement une température assez...
estivale.
Justement, je parlais tout à l'heure de Shieldé. À l'époque des airs empruntés, on a peut-être notre première compo ensemble. En fait, c'était parti sur un riff de Shield. Et donc voilà, ça s'appelle Les Frères Misère. On va vous tenter ça.
Vient l'hiver, ils se couvrent aussi d'un blanc manteau de neige et se laissent endormir par les vents qui glacent leur corps meurtri et leur sang et leur mémoire sèche, devenue sèche, aussi sèche que leurs mains sales et tendues au mouvoir des sans conscience qui font mine de n'avoir rien vu, parce qu'en bas ce sont jamais la chance. Percé par le monde des métros qui vomissent des foules indifférentes, ils comptent pour eux autant que les mégots jonchant le sol de la station tourmente. Ils ont un peu tous les âges, les frères misères, sur leurs bras le même tatouage, la rue. Ils sont passés de
de l'autre côté où tout le monde vit pareil. Et regardons passer les empressés de leur côté où tout est merveille. Il paraît, mais que ce soit les uns ou bien les autres, ils savent qu'aucun n'est de chance, car les uns ont tout, les autres n'ont rien. Et on ose parler de juste balance. Ils ont un peu tous les âges, les frères misère, sur leurs bras le même tatouage. La rue est mon frère. On les connaît, les hommes de carton. À la fin, ils font partie du décor, mais pas une âme n'y prête attention. Ils sont si transparents, presque morts, nuit de la gêne, y a pas de plaisir. Alors ne regardons rien en face, le stratagème peut marcher au pire. On fera en sorte que rien ne se passe. Ils ont un peu tous les âges, frères misère, sur leurs bras le même tatouage. La rue est mon frère. Les frères misère, sur leurs bras le même tatouage. La rue est mon frère.
J'aime les hauts et les bas, le blanc ou bien le noir, la vie belle ou le trépas, la fin ou bien l'espoir. En tout cas, quand je les croise, je les écoute et leur parle bas. Ce sont les seuls, quand je les vois, ils, qui me disent salut, comment tu vas. Ils ont un peu tous les âges, les frères misères, sur leurs bras le même tatouage. La rue est mon frère et ils ont un peu tous les âges. Les frères misère, sur leurs bras le même tatouage. La rue est mon frère.
On est tous un petit peu les frères misère des uns et des autres, hein, de toute manière. Yes. Tu me disais aussi que quand vous êtes venu jouer à Digne, qu'en Suisse, tu avais vu des gens sur un banc, et ça t'avait un petit peu choqué quand même.
Voilà, c'est exactement ça. C'était à la gare de Cornavin, à Genève. C'était un lieu à Genève où se croisait un peu l'élite bourgeoise, justement, de Genève. Et puis on voyait, comme dans beaucoup de gares, des mecs qui étaient un peu abandonnés comme ça sur le trottoir, souvent des toxicos, souvent des gens qui se retrouvaient à la rue pour des histoires pas possibles. Et puis ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'il y avait plein de gens qui passaient devant ces déprimés de la vie et qui leur jetaient même pas un regard, même pas un sourire, rien du tout. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a choqué de voir des êtres humains dans un même espace, mais vu qu'ils n'ont pas le même costume, personne n'empiète sur l'espace de l'autre. C'est un truc qui m'a flingué. Ça a donné ce morceau.
Ah oui, on peut être le même, on n'a pas toujours le même costume, on est le même intérieurement, mais les gens nous voient différemment avec un autre œil, alors que personnellement, même eux, on leur enlève leur habit, leur apparat, hein, c'est ça, quoi. Hein. Et puis ils sont tout nus, quoi, mais leur nudité, ils voient pas la nudité des gens qui sont en face et qui demandent avec un œil humide à l'aide, quoi.
Oh, quelle ambiance!
Ouais.
Non, on attendait que Schilder enlève son chapeau quand même.
deux innocences immenses comme l'air, le secret des sens créés. Et tu penses en évanescence aux ténèbres à la pierre, au secret des sens créés. Quand la nuit appartient au songe comme la surdité à l'ombre et aussi. Quand tu as le don divin des enfants qui prennent leur jeu au sérieux. Et si fort quand tu y songes que tu donnes corps à tous les fantômes. Les fabuleux lointains t'enchantent et tu es le seul maître des lieux. Quand la nuit appartient aux songes comme la surdité à l'ombre et aussi. Quand tu as le ton divin des enfants qui prennent leur jeu au sérieux. Ce n'est possible qu'ici, à l'aube on trouve des traces qui témoignent que les esprits ont parlé à ta place. Il ne faut plus raisonner non. On a tout le temps pour nous. Dans les cavernes de ta pensée, je creuserai. Des voix ou un bruit étouffé de pas. On inventera la vérité, mais juste pour mieux te soigner. Quand la nuit appartient au songe comme la surdité à l'ombre et aussi. Quand tu as le ton divin des enfants qui prennent leur jeu au sérieux. Mais ce n'est possible qu'ici, alors on trouve des traces qui témoignent que les esprits ont paré à ta place. Il ne faut plus raisonner, non. On a tout le temps pour nous, dans les cavernes de ta pensée, je creuserai des trous.
D'habitude, vous jouez en électrique. Là, c'est essentiellement acoustique. Quelle différence il y a quand vous interprétez un morceau sur scène et contrairement à ce que vous pouvez faire ici ou dans d'autres radios, que vous jouez acoustique, il y a l'émotion est la même. Vous avez une façon différente d'aborder les morceaux avant de les jouer.
Il y a une vraie façon différente d'aborder les morceaux. C'est assez général. On en parlait tout à l'heure, justement, avant l'émission, avant d'être à l'antenne. On a découvert un paradoxe, justement, c'est que les morceaux les plus péchus, qui sont les plus rapides, les plus rock, les plus puissants, deviennent souvent des jolies ballades comme la Psychose, qui normalement est un truc qui déboîte quand même assez sauvagement, pour le coup devient une chanson plutôt tranquille, plutôt planante. Et après, c'est vrai que la différence entre la présence d'un public ou le huis clos d'un studio radio, c'est deux moments différents. J'y pensais au départ de ta question quand tu posais la question et je me disais justement que y a, bien sûr, comme disait Walt, on connaît notre sujet, on répète pour être à l'aise, pour savoir où on va. Et après, il y a une espèce de défi, mais très amical. C'est un challenge entre nous, il n'y a pas de compétition, pas du tout, mais il y a une espèce de truc où on se soutient les uns les autres pour envoyer le rock'n'roll. Et aussi, il y a un petit truc pour voir si tout le monde suit. Ici, on est plus emprunté au studio. Il n'y a pas la batterie déjà, où Yuri tape, il donne beaucoup d'énergie déjà au départ. Et puis ça donne ce côté très carré. Là, ici, il y a le côté, il faut être encore plus à l'écoute des autres. C'est vrai que sur scène, parfois, on peut fermer les yeux, s'oublier. On entend grosse caisse claire, on sait où on va. Là, c'est plus subtil quand même, mais c'est très, très agréable.
Ouais, même les morceaux sont plus durs à jouer en acoustique qu'en électrique, en fait. Hein, parce qu'en fait, la dimension, bien sûr, en électrique, il y a les watts derrière, donc on peut la mettre, quoi, c'est facilement. Alors qu'en acoustique, c'est beaucoup plus dur. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un bon morceau, que ce soit joué en électrique ou en acoustique, voilà, si c'est un bon morceau, il passe sur les deux, quoi, de toute manière. C'est ce qui est de plus important.
On dit toujours que quand on est dans le public, on a des émotions. Est-ce qu'un musicien sur scène, quand il joue un morceau sur scène, est-ce qu'il a autant d'émotions que s'il pouvait être dans le public en entendant un autre musicien jouant exactement le même morceau ?
Je pense que c'est pas du tout la même chose sur le, parce que quand tu es devant un concert, tu reçois ce qu'on te donne, et quand tu es sur scène, tu te donnes pour que les gens reçoivent cette énergie, ce que tu veux leur donner.
Et puis même entre nous et le public, il y a le son, en fait, que nous on n'a pas le même son que les gens qui sont en façade. Ça c'est super important, quoi. C'est ça, la différence, elle est là aussi, en fait, hein.
Tout à l'heure on était en transante, là il y a les bains de pieds, c'est bien ça.
Les bains de pieds, il y a encore des mecs qui appellent les retours des bains de pieds.
Oui. Je suis de l'ancienne génération, bains de pieds.
Oui, mais c'est mieux que wedge d'ailleurs, hein. Même si wedge est très approprié, ça veut dire la même chose, c'est de l'anglais. J'aime beaucoup le mot bain de pied.
D'ailleurs, il fait un peu chaud, c'est pour avoir un petit bain de pied, moi, ça serait pas mal. Hein.
Et pour revenir à la guitare, Shildé, donc tu joues sur une 6 cordes. Tout à l'heure, on disait hors micro en off, l'approche de jouer sur une 12 cordes est complètement différente, que ce soit électrique ou en acoustique. Il y a plus d'harmonique, il y a plus de sensations.
C'est toujours très différent, justement, parce que, basiquement, la guitare à 12 cordes a 12 cordes, voilà, c'est 6 fois 2. Ah, donc, on a des cordes qui sont identiques pour les aigus. Et en haut, dans ce qui est normalement grave, il y a des cordes aiguës qui sont rajoutées dans la guitare à 12 cordes. Donc, ça donne effectivement une espèce, c'est comme si deux guitares jouaient ensemble sans vraiment jouer la même chose, alors que c'est qu'une guitare. Donc, effectivement, ça donne une dimension, une profondeur. Et je disais tout à l'heure, je trouvais un côté très typé, c'est difficile, voire même mission impossible, de tout jouer avec une 12 cordes, alors que la 6 cordes, pour le coup, est quand même plus polyvalente. Mais la 12 cordes, oui, c'est planant, puisque c'est des harmonies en plus. Donc, on a presque moins besoin d'en faire avec une 12 cordes, et ça sonne un petit peu.
Puis la 12 cordes est de moins en moins utilisée, malheureusement.
Oui, parce qu'en plus, le petit inconvénient de la 12 cordes, c'est deux fois plus d'accordage, ce qui est relativement difficile à faire, justement. Les accordeurs classiques ne savent pas accorder une 12 cordes, par exemple. Bon, ça se fait maintenant avec le numérique, l'analogique, on en est venu à ça. Mais l'accordeur, justement, c'est là que ça intervient dans une 12 cordes. C'est un peu comme pour les violons ou des instruments plus fins. Pour un bon accordage, il est effectivement sur la bonne tonalité, mais aussi avec le ressenti de la pièce, avec... La 12 cordes amène beaucoup plus ce genre de choses et très sensible, quoi. C'est un instrument aussi qui est un peu ingrat, entre guillemets, parce que ça pardonne encore moins la fausse note.
Et l'humidité sur une 12 cordes, c'est encore plus flagrant ?
Pareil, deux fois plus de cordes, deux fois plus de probabilité, justement, de poser la guitare, revenir deux heures après et la bouger, quoi.
Et Walter, donc tes textes, tu les façonnes, tu les écris, tu regardes ce qui se passe dans la rue, dans ta tête, dans la tête des gens, tu essaies de faire une petite osmose de tout ça ?
Oui, c'est un mélange. J'ai la chance ou pas d'être d'avoir beaucoup de pulsions pour l'écriture. Donc j'écris vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai des tonnes de cahiers remplis et je peux être interpellé par une phrase qui est dite en fond, que je vais entendre à la téloche, et qui va me donner une idée de thème. Mais souvent, oui, c'est plus du vécu ou des constats. J'essaie de ne pas être trop politique parce que je ne suis pas assez calé pour m'engager à gauche, à droite, au centre ou quoi que ce soit. Puis c'est pas ma came, quoi. Moi, je fais de la musique, pas de la politique. Donc je fais pas trop de textes vraiment engagé politiquement, mais par contre, je constate souvent la détresse, mais la détresse, elle peut être chez ces gens qui crèvent de faim sur un trottoir, elle peut être quand tu t'es fait lourder comme une merde par ta nana, elle peut venir de plein de choses, et donc elle va s'exprimer de différentes façons, pas forcément des textes joyeux.
Quand tu te fais chourer ton téléphone aussi.
Voilà, exactement. D'ailleurs, je remercie celui qui m'a volé mon téléphone il y a 4-5 jours.
Pourquoi t'as fait un texte ?
Oui, je lui ai fait une chanson. Pour revenir à la musique, les textes, ça s'écrit soit en une fois, Souvent, c'est le cas. Des fois, tu fais des morceaux, tu les écris de A à Z. On les retouche pratiquement pas. Ou alors, c'est une vraie galère. Et puis, on met 2 mois pour en écrire une. Et on change une phrase d'un couplet. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça s'apprivoise aussi là. La musique, on la joue, mais il faut qu'elle se laisse jouer aussi. Donc il faut qu'on soit d'accord des deux côtés. C'est ce qui se passe, je trouve, maintenant dans Cave B depuis 4-5 ans. Là, je trouve qu'après toutes les tournées Purple, AC/DC, on en a mis des couches avec ça. Ce qui était un super trip. Mais voilà, je me dis, si le Café Bertrand d'aujourd'hui avait été sur scène... à l'époque, on aurait eu un impact assez différent, je pense, vraiment.
Et tu fais sonner les mots comme tu veux faire sonner ta musique, pour les accords, pour les rimes, pareil ?
Oui, parce que la langue française, elle est très syllabique et on a... Je cite toujours les mêmes exemples, mais quand tu prends des mots en français, une bulle, c'est une bulle. Tu vois, un chat, il ronronne, tu vois, tranquille. Et tu peux avoir un truc qui est pointu, incisif, un choc. Tu vois, et les mots sonnent selon leur signification, très souvent. Donc il suffit de se creuser un petit peu la tête, si on aime bien les lettres, etc. Et puis on arrive à éviter le texte bateau. Moi, je peux pas écrire un truc, je t'aime, reviens, ça va pas. Essayer de, sans prétention aucune, mais de glisser un petit peu de poésie, même si elle est un peu noire. Voilà, j'essaie de trouver des mots qui sonnent et qu'on n'entend pas forcément tous les jours.
Et tes compositions, c'est pareil, tu les, comme pour les textes, tu les mets, tu les enregistres, tu les reprends, tu inverses des riffs,
pour la musique.
Oui, pour la musique.
La musique, c'est pas trop mon. Moi, je suis plus vraiment axé sur les textes. Il y a certains morceaux, bien sûr, où j'ai trouvé des plans et ça a donné des morceaux derrière, mais ça a donné des morceaux derrière parce qu'ils étaient arrangés par ceux qui jouent avec moi, parce que moi je suis un autodidacte à la guitare, je suis un guitariste rythmique point barre, j'ai fait un peu de manouche quand j'étais petit avec mes cousins, etc. Mais voilà, la musique c'est plus la route qui est un single qu'on a sorti en septembre 2014, là le clip est sorti en janvier 2015, c'est notre dernier single. Et la route, c'est un... Shildé était à la maison, et puis il a plein de maquettes, comme tous, sur son PC. Et puis je vois un truc, je vois un new song, tu vois, un nouveau morceau. Alors, je suis allé écouter ce truc-là. Et puis là, il fait un truc au clavier avec du sitar. Et il y avait donc un riff qui en est sorti, et j'ai trouvé ce riff absolument génial. Et puis je me suis dit, bah tiens, on va en faire un morceau. Et puis ça a donné ça. Viens vivre loin de moi dans ma chaleur animale. Tu t'approches de mon départ, beauté fatale, puisque la vie m'oblige à épouser la route. Dans la soute, laisse-toi partir dans le supplice de Tantale. Laisse-moi juste ton parfum aux fragrances de scandale. Et ressens-tu à plein nez ce parfum cannibale? Es-tu prête à venir vivre loin de moi? Es-tu prête à venir vivre loin de moi? Puisque ma vie t'as jamais sur la route, es-tu prête à vivre loin de moi? Puisque ma vie t'as jamais sur la route. Sosie, Ornette, Suzy, les deux se ressemblent, les tubes d'Imery. Je me rassemble quand je bois ta rouge détresse jusqu'à l'allée. Quand tu me laisses seul responsable de ta vie, es-tu prête à venir
train et sur la route. Es-tu prête à vivre loin de moi? Puisque ma vie t'a jamais sur ma route, viens vivre si tu l'oses auprès de moi. Alors que je suis encore sur le départ, oublie-moi, le cœur écrasé de doute, puisque ma vie est à jamais sur la route. Es-tu prête à venir vivre loin de moi, puisque ma vie t'a jamais sur ma route? Es-tu prête à vivre loin de moi, puisque ma vie t'a jamais sur ma route? Es-tu prête? Es-tu prête? Ma vie est à jamais sur la route.
Ah, ça va, sur scène, le sourire relève, là vous êtes sourire relève, même si c'est un petit peu étriqué, le cadre n'est pas le même, le studio de Fréquence Mistral la nuit est un petit peu plus petit. Et tout à l'heure, tu parlais des tournées d'ACDC, de la première partie des CDC de Deep Purple. Comment vous avez pu avoir de dégoter ces premières parties? Vous avez, comment ça s'est goupillé?
Ça a commencé, en fait, on a organisé un concert le 26 mars 2006 au Hard Rock Café à Paris. Et puis on a invité un producteur, un promoteur tourné qui s'appelle Gérard Droux, qui est un des plus gros producteurs français. Et on l'a invité au Hard Rock Café. Voilà, on l'a reçu comme il se doit. Et puis malgré le fait que c'était un mercredi ou un jeudi, un truc comme ça, et c'était blindé, on a fait 350 ou 400 personnes, 7 rappels, enfin un truc de fou. Et puis, donc du coup, ça a accroché Gérard qui s'est dit, tiens, ils sont peut-être pas mal les petits là. Et puis, il a envoyé justement l'album Les Airs Empruntés au management de Deep Purple pour proposer au départ une date à Nice, au Nikaya et à Marseille, au Dôme. C'était pas trop loin de chez nous. Si jamais on enquillait deux dates, c'était bien. Et puis on a eu de la chance. Il se trouve que tout le groupe Deep Purple écoute toujours les premières parties qu'on leur propose. Et puis quand ils ont écouté l'album, c'est eux qui nous ont demandé pour toute la tournée. Donc on a fait 9 dates. À la fin de ces 9 dates, ils nous ont dit il y en a 17 l'année prochaine. On en a refait 17. Et puis on a refait 12 encore l'année d'après. Donc voilà, je sais que on devait tourner normalement avec Purple à la rentrée, et puis très malheureusement, c'est le manager de Purple que je connais bien, mais qui est un peu à l'ouest, le garçon, et qui a juste omis de demander Café Bertrand dans les temps à la production. Donc ce sera pas Café Bertrand avec Deep Purple cette année. C'est un bien pour un mal, parce qu'en définitive, ils sont en train de préparer leur dernier album. Ils travaillent en Allemagne en ce moment, ils font des sessions d'écriture. Et c'est un album qui va sortir l'année prochaine. Ça risque très très certainement d'être le dernier album de Purple. Et donc là, on sera sur l'affaire, par contre, Dixit Roger Glover.
Vous avez bien accroché avec Roger Glover et Don Airey le clavier, apparemment. Donc Roger Glover, il joue de la basse. Et Don Airey qui a joué avec beaucoup de monde, avec Gary Moore, avec John Iseman, enfin bref, il a fait beaucoup, beaucoup de avec Gary Moore, ça je l'ai dit, il a joué 2 fois avec lui. Et donc, au niveau composition, il vous donne un petit coup de pouce pour les productions de vos albums, pour l'écriture?
Non, parce que ils ont leur maison de disques, Purple, et c'est pas nos producteurs. Par contre, on est devenu très pote avec Roger, on a accroché assez vite. ensemble. Et puis Roger est venu le dernier album de KFB, il a fait un featuring à la basse. L'ancien album L'Art délicat du rock'n'roll, il avait mixé l'album. C'est lui qui nous l'avait proposé après un concert, justement en pleine tournée. Et je lui avais dit, je cherche quelqu'un pour mixer cet album comme un anglais, quoi. Un mec qui mixe du rock. Et donc il m'a dit, mais moi. Donc on n'allait pas lui dire non, hein. On lui a pas reposé la question deux fois, on a fait ok, ça se passe.
Tu laisses un CV, s'il te plaît.
Voilà, on verra.
Tu es qui d'abord?
Et puis c'est... Non, par contre, on a appris des choses. Tu apprends des choses quand tu côtoies des musiciens comme ça, c'est qu'ils sont d'une humilité sans nom et d'un talent indéniable. Donc quand tu combines les deux, ça fait quand même des super mecs en général. Donc voilà, tout ce que j'aime dans la musique, ce qu'il y a dans Café Bertrand aussi. Justement, il n'y a pas de gens prétentieux... qui se prennent pour des autres, il y en a eu, hein, mais ils ont été virés du groupe. Parce que c'est pas possible, c'est une histoire d'amour, un groupe, c'est pas autre chose, quoi. Donc, dans un couple, quand ça va pas, hein, soit il y a toujours un des deux qui est perdant.
Donc, ouais, soit arrivé avant d'être parti, quoi.
Ouais, et puis quand tu maîtrises bien la situation, je veux dire, il n'y a aucun souci par rapport aux gens que tu peux rencontrer, aux gens avec qui tu vas travailler, en fait, voilà, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème par rapport à tout ça. Ouais.
Et pour ACDC, enfin, c'est laquelle des dates où tu as eu un petit pépin avec l'organisation du Stade de France? T'avais dit un mot un peu malencontreux.
Oui, c'était au Stade de France. justement. C'était pas au Vélodrome. J'aurais dû le faire au Vélodrome. Mais c'est vrai qu'on avait un morceau qui s'appelait Endémie, qu'on jouait à l'époque et qui était un peu sur la télé-réalité, sur tout ça. Et puis il y avait une petite phrase dedans qui disait quand Carla se brunit sous le soleil de sa cuisine, des choses comme ça. Donc pour finir le petit clin d'œil, j'avais dit à la fin, voilà, je dédicace cette chanson au nain qui nous sert de président de la République. Et puis ça n'a pas plu, il n'était pas là, hein, mais ça s'est su. Et puis je me suis torché 2 400 € d'amende.
Ah, ça arrive à ses petites oreilles quand
c'est
même.
C'est sympa, hein, comme
truc. 2 400 €.
Ouais. Et vu qu'on avait gagné, alors attends que je calcule.
Il avait besoin d'argent,
on était payé 100 € net. Donc voilà, vu qu'on était payé, on a dû gagner 1 000 ou 1 200 €, nous, au Stade de France, pas plus. Donc ça... Enfin, les deux concerts de ACDC ont pu payer cette connerie.
Ça fait gère la prune.
Que je ne regretterai jamais. Hein.
Oui, ça j'entends bien. Oui.
Mais voilà, quoi. Écoute, c'est des petits trucs, des fois. Des fois, je suis un peu impulsif aussi. Hein. C'est vrai que je parle beaucoup et j'ouvre souvent ma gueule. Des fois, à tort, mais écoute...
C'est sorti.
Voilà, ça m'a fait du bien, en plus. Puis bon, ça n'a pas changé, ça n'a rien révolutionné, hein, à part mon compte en banque.
Et le fait de jouer devant le Stade de France, par rapport à une salle plus moyenne, entre guillemets, comme le Dôme à Marseille, ça donne quoi de monter sur scène devant tout ce public qui attend les vedettes?
Et vous avez... C'est clair que le public est venu pour ACDC et pas pour nous. Ça, c'est évident. Mais il ne faut pas leur laisser le temps, il faut les prendre déjà direct sur scène, ce qu'on a fait à chaque fois. Et bizarrement, tu sais, Oui, t'as beaucoup plus de monde. T'as 64 000, je crois, à Marseille et 82 000 à Paris. Donc c'est, entre guillemets, un peu plus impressionnant. Mais tu sais, après, que t'es 5 000 ou 500 000, c'est un peu la même. Hein, parce que quand tu vois plus... tu vois pas jusqu'où le public va, bon...
En fait, c'est plus facile de jouer devant 5 000, 10 000, 60 000 que devant 20 personnes, en fait.
Tu vois.
Ouais.
Ah oui.
Ça, c'est clair. Parce que quand tu as une salle de 400 places avec 20 personnes, je peux te dire
ça
que
fait mal.
C'est pas du tout le même. Alors que là t'es poussé, quoi. Je veux dire, t'as 5, 10 ou plus. Il y en a, si même il y a 20% des gens qui frappent des mains, je veux dire, sur 60 000.
Quand vous jouez devant une salle de 400 personnes qui a 20 personnes, vous jouez quand même avec la même volonté.
Vous jouez avec la même énergie, mais.
Et heureusement, ça vous arrive pas souvent. Hein,
heureusement, oui.
Mais c'est quand même dur pour tout le monde, que ce soit pour le public un peu, enfin pour nous aussi. C'est vrai qu'on aimerait que la salle soit pleine, quoi. Enfin, on joue pour les gens qui sont là et on est content qu'ils soient là, et puis voilà, je joue pour eux. Mais pour te dire que quand il y a beaucoup de monde, en fait, c'est beaucoup plus facile. Si l'appréhension, elle est avant de monter sur scène, là où on sait plus où on habite, juste, mais autrement, une fois que c'est parti, quoi, c'est que du bonheur.
Et puis le confort n'était pas le même non plus. C'est-à-dire qu'au Stade de France, on avait 47 retours. Ça, c'est. Voilà, là, il y avait du son. Mais que dans les retours, hein, parce que. Moi, j'ai des potes qui étaient au stade. Ils n'ont pas allumé tous les relais du stade. Première partie, t'es vachement bridé au niveau du son, puisque eux, ils payent le dépassement de décibels, puisqu'on est limité en France à 105 dB. Dès que ça dépasse, un concert d'ACDC, c'est environ 270 000 euros d'amende de dépassement pour le son. Donc, vu qu'il est hors de question qu'ils mettent 5000 euros pour ta gueule, tu veux jamais être trop fort. Et c'est toute la différence qu'il y avait avec Purple, c'est complètement l'inverse. Nous, Purple, on est à la maison avec eux. On connaît tout le monde. On a même fait des concerts où Steve Morse nous prêtait les amplis, etc. Enfin, ouais. Et puis, dans un Zénith, de toute façon, Deep Purple n'a peur de personne. Alors, AC/DC n'a pas fait parce qu'ils avaient peur de la première partie. Ils le font pour ces raisons financières. Mais tu as plein de groupes aussi qui brident les premières parties. C'est une chose qui n'arrive jamais avec Deep Purple. Être à 11, tu peux être au taquet. Purple serait peut-être les premiers à te dire il n'y a pas énorme de son là, il faudrait bosser.
Même au niveau des balances, c'est.
Oui, les balances avec Purple, quand on arrive, c'est t'es installé.
C'est réglé, ouais. C'est timé. Enfin, il y a un timing. Il faut être précis là, être là à l'heure, etc. En fait, ça dure de temps en temps et pas dépasser, quoi. Donc, c'est bien bien checké tout ça. Ouais.
Et pareil, en retour, quand vous jouez, le sérieux de celui qui a la console privilégie pas Purple par rapport à vous, quoi. Vous êtes la première partie, vous faites partie intégrante du spectacle.
Ah bah absolument.
Mais avec Purple, c'est encore une fois, c'est spécifique parce que ça s'est fait avec le temps aussi. Au tout début, les premières dates avec Purple, on n'avait pas autant que ce qu'on a eu à la fin. Parce qu'au départ, on glissait un petit billet, on laissait 100 balles au mec des lumières pour qu'il nous mette 4 lumières sur scène, etc. Et puis, ben, quelques dates après, quand tu te connais bien et que tu viens de t'en mettre une grosse avec Roger, tu dis, putain, ça me fait chier hein, quand même de donner 100 balles tous les jours au mec. Et puis, il te dit, comment ça Donc, après, on a eu des lumières qu'on ne payait plus et beaucoup plus de lumières, etc. Donc, ouais, c'est un vrai bonheur de bosser avec des mecs comme ça. Il y a au Festival de la Cité à Carcassonne, on avait eu une standing ovation de tout le festival. Et on n'a pas osé... Le public en demandait une, mais on n'a pas osé parce que, comme disait Alain, c'est assez chronométré quand même, tu vois. Et puis quand tu joues devant beaucoup de gens comme ça, un morceau en plus, ça génère des droits d'auteur, c'est plus les mêmes revenus, etc., etc. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais c'est peut-être un de mes seuls regrets, ça, c'est de pas avoir fait ce rappel à Carcassonne, parce que quand je suis sorti de scène, j'ai dit à Roger, t'as vu, il nous demandait, j'étais à deux doigts d'en refaire une. Et quand il m'a dit, mais il fallait en refaire une ou deux, même. C'est pas nous qui allons dire non, de toute façon. Donc là, je m'en suis un peu voulu.
Bon, ça sera pas la même s'il y a une redite, mais plus tard, ça peut encore se reproposer, parce que bon, Purple est en studio. Vous allez peut-être refaire des premières parties de futurs concerts avec eux. Mmh. Peut-être que retour à Carcassonne, NC4.
Oui, bah oui, il y aura. De toute façon, moi, je vais déjà en discuter avec eux, avec tout le monde au mois de novembre. Là, ils passent au Dôme, justement, à Marseille. Donc on va aller les voir. On y sera avec les CAFB, histoire de mettre les points sur les i un peu pour l'année prochaine, justement.
Et au niveau de Deep Purple, ils sont tous accessibles, de Steve Morse à Ian Paice, pareil.
Oui, pareil. En fait, après, on a plus d'affinité avec Roger ou Don, quoi. Mais ils sont terribles, tous, franchement.
Bon, Roger, c'est vraiment spécifique. C'est
un bassiste, quoi. Enfin, tu vois, c'est... donc, bon.
Déjà, tu vois.
Déjà, j'ai même pas besoin de. Hein.
Le mais handicap je crois... du mec.
Ouais, Alain, il joue un petit peu de basse de temps en temps, d'ailleurs.
Non, mais c'est un mec, Roger, en plus, tu vois, il a joué. J'ai chanté sur son album solo. Il a aussi joué sur mon album solo. C'est un mec qui se prend pas le chou. Ian Paice à la batterie est à peu près pareil. Don Airey est un grand, grand monsieur. Et puis Roger et Don sont vraiment des super potes. Après, ceux qu'on voit le moins, qu'on voyait le moins, c'est quand même Ian Gillan, le le chanteur parce qu'il est, parce qu'il est déjà chanteur. Sa loge à côté, il n'est pas avec le groupe, monsieur.
C'est bien le pic de « Salut les chanteurs, allez, vas-y
!» Bah ouais, mais écoute, mais voilà, il y a lui et puis et Steve qui reste pas trop longtemps après les concerts, qui sont vraiment tournés, alors que les autres, c'est des avions, hein, c'est le contraire, hein, c'est Roger et Don, si à un moment tu leur dis pas, là, les mecs, c'est 6h du mat', il faut qu'on rentre, on a de la route et tout.
Nous, on est fatigués, nous.
On s'est fait des beaux trucs, hein, c'est-à-dire le... C'était des soirées avec Roger et Don où on picolait comme des ânes. Et le lendemain, ils venaient nous voir parce qu'eux, ils se déplacent en jet, mais nous, en camion. Donc, c'est quand même beaucoup plus long. Quand il fait Strasbourg-Pau du style, tu vois. Et puis, on arrivait le lendemain, hein, un peu éclaté. Alors, il venait dans les loges, il ouvrait la porte, il disait « Alors, ça va ?» On se poussait à... Et je pense que Roger, c'est ce qu'il a aimé aussi, c'est que Café Bertrand, c'est une vraie énergie physique aussi. Et c'est un truc qu'il a vraiment aimé, ça, je crois. Et puis, c'est un truc qui m'avait fait plaisir quand il m'a dit, quand Café Bertrand a joué, je peux pas jouer avec Deep Purple comme j'ai joué en Amérique du Sud ou là, parce que là, vous avez quand même envoyé le bois. Et on se doit d'être au-dessus quand même. Quand il te dit des choses comme ça, ça fait plaisir. Ça.
Et puis quelqu'un qui a écrit Love is All, c'est quand même quelqu'un de très respectable.
Puis il prépare une tournée, il va jouer ses albums solo l'année prochaine ou l'année d'après, quand il aura un peu le temps, je pense. Et c'est tous des avions, hein, ils tournent à côté tout le temps. Quand ils sont pas en tournée avec Purple, Ian Gillan prend un jet et boum, il fait un concert solo à Petauchna, qui après le lendemain avec Purple, etc. etc. Donc voilà, ça a été une belle école, une belle et grande école de faire tout ça avec eux.
Qu'est-ce que vous nous proposez maintenant ?
Eh bien écoute,
c'est une choucroute.
Une choucroute pour la 3.
On va vous tenter une version de Sir John, qui est un morceau de l'album Les Mains dans l'encre.
Chasser. Là où seules les chandelles me parlent, là où celle qui est pleine reste mon alliée. Sortant la liste sans fin de mon manoir, à l'abri du jour, dans l'attente des soirs. Prisonnier, long sortilège de ma vie de chien, je viens en costume et monocle pour feindre l'humain. Je me réveille dans les courbatures, avec dans la gueule un métallique coup de sang. Ils croient tous, ils le jurent, c'est l'œuvre des gitans. Je sors à n'importe quelle heure, je me rappelle tout ce qui vit. Je suis un monstre en colère, Sir John, pour ceux qui m'ont suivi. Je maraude au tréfonds des pénombres colossales, à la recherche d'un quelconque frère animal. Une nuit j'ai traversé les Landes, ils voulaient m'ôter la vie. Ils m'ont tout juste effleuré, ceci dit. Et je les entendais, loin de se taire. Ces blessures sont très sévères, il ne passera pas l'hiver. Mais la malédiction me confère certains droits sur vos terres. Je suis le trophée à voir, la chose à abattre. Je me réveille dans les courbatures, avec dans la gueule un métallique coup de sang. Ils croient tous, ils le jurent, c'est l'œuvre des gitans. Je sors à n'importe quelle heure, je me rappelle tout ce qui vit. Je suis un monstre en pleurs, Sir John, pour ceux qui m'ont suivi. De moi loin de raison alors,
raté les campagnes du 18e. Leurs brumes empalées, leurs sentiers escarpés. Je pourrais qu'un jour je revienne chez Louis Fine et l'odorat bien affûté. Je reviendrai malgré vos prières, me répéterai la touche qui vit. On me croit extirpé de vos imaginaires, mais je traverse les Landes depuis au moins 200 vies. Je me réveille dans les courbatures, avec dans la gueule un métal et coup de sang. Ils croient tous, ils le jurent, c'est l'œuvre des gitans. Je serai à n'importe quelle heure, je me rappelle tout ce qui vit. Je suis un monstre en pleurs, Sir John, pour ceux qui m'ont suivi. Je serai à n'importe quelle heure, je me rappelle tout ce qui vit. Je suis un monstre en pleurs, Sir John, pour ceux qui l'ont omis.
Ça, c'était tiré des mains dans l'encre.
Les mains dans l'encre, ouais. Hein,
bel album, en plus, il y a des textes qui sont vraiment... Il y a des morceaux plus acoustiques, d'autres plus électriques. Puis il y a une entame de cet album de Yuri qui est quand même assez fabuleuse, quoi.
Avec des cris.
Ouais, c'est à recommander. D'ailleurs, tu voulais faire passer un message des gens que si un jour il y a des personnes qui nous écoutent sur Fréquence Mistral qui veulent vous faire jouer.
Yes, ben écoute, oui, il se trouve que c'est assez exceptionnel quand on n'est pas sur la route. On est souvent sur la route. Là, cet été, on a une date, le 16 juillet, on joue avec TFN pour les 25 ans du Festival de Néoul dans le Var. Ça va être une belle et grande soirée, ça. Café Bertrand à 21h sur scène. Et puis sinon, oui, cet été, ben non, on joue en acoustique un peu, justement. Là, on va jouer le 1er août à l'endroit à Manosque. On a joué à Pierre Vert pour la fête de la musique, etc. Donc, on fait un peu du Café Bertrand, on fait des reprises aussi, etc. Donc, voilà, j'en profite pour dire aux amis du 04 qu'effectivement, s'ils veulent soutenir les musiciens du CRU, on débarque en acoustique chez eux et puis on leur fait une belle petite soirée.
Vous avez une page Facebook sur laquelle on peut vous contacter, d'ailleurs.
Oui, il y a la page Facebook Café Bertrand qui trouvera sans problème. Et puis s'il y a un mail à donner, c'est Walter, walther@cafébertrand.com.
Ben merci, messieurs.
Merci à vous.
Voilà, on a encore un peu de temps, si vous voulez. Si vous voulez déborder musicalement, si vous voulez vous amuser entre vous.
On peut essayer d'écrire. On l'a jamais fait en acoustique, on va voir un peu.
C'est un challenge, puisque tu t'en parlais à l'instant. On sent Yuri, on lui fait une bise d'ailleurs. Tu peux commencer la batterie à la maison, Yuri, comme si on t'entend. Hein, ok, ouais. Tu nous mets le sample et la batterie, Yuri, hein, on te fait un bisou.
Bon, vas-y, je commence tout seul, quoi. Comme d'habitude.
Ouais, je te ferai bien Pung Chak, mais ça va pas le faire.
Il y a des sortes de cris sur lesquels on peut compter, des belles histoires, des féeries que l'on peut raconter. Mais il y a des murmures que l'on cache désormais, bien planqués au fin fond des armures. Mais il y a ces instants aussi où les nerfs nous lâchent.
cache au cœur des histoires quand les fées en rient au fin fond des soirs dans les féeries comme d'un certain murmure juste susurré au silence de plomb qui s'échappe des futurs et qu'on vole sur l'instant. De gravats, des machinaux dans les lignes adverses, des hurlements qui déchirent les nuits, et certainement ceux de la fin d'une vie, des aboiements sûrement aussi. Le bruit des larmes qu'on essuie, il y a des cris il y a des sortes de cris sur lesquels on peut compter des belles histoires, des féeries que l'on peut raconter. Il y a des écrits sur lesquels on peut compter des belles histoires de Fell, Henri ou Gustave. On peut se tromper au cœur des histoires quand les fées en rient, quand le silence fait du bruit. Il y a des heures que l'on n'entend pas, des heures que l'on traverse, des tranchées pleines de gravats, des machinaux dans les lignes adverses, des hurlements qui déchirent la nuit. Très certainement ceux de la fin d'une vie. Des aboiements sûrement aussi. Le bruit des larmes qu'on essuie. Il y a des cris.
Comme essai, c'est pas mal quand même. Sans Yuri, ça tourne bien.
Ouais. Ouais, ça tourne toujours mieux sans Yuri. Ouais. D'ailleurs, on l'embrasse aussi.
Le pauvre.
On lui met la misère.
Ouais, ça lui apprendra. Mais...
Il est venu nous voir chez nous, mais il reste à l'ombre.
Quel ingrat.
C'est les batteurs, ils sont un peu fragiles niveau santé. Tu sais, Il y a un batteur colombien, c'est encore pire. Tu sais, c'est toujours un petit peu malade.
Et toi, de commencer le morceau à la basse tout seul, ça ne te perturbe pas ?
Si, ça m'a youpi, je suis perdu, c'est vrai. C'est vrai, je l'avoue. Non, non, ça va, ouais.
Un grand merci à vous, Café Bertrand, merci sur Fréquence Mistral à Digne.
Merci beaucoup.
Quand vous voulez. Avant Deep Purple, après Deep Purple.
Des petites nouvelles, il y a un nouveau single qui va arriver bientôt, exact. Justement. Là, hein? C'est tout frais, c'est en train d'être ficelé par Alain et par Walt. Yuri a commencé par poser des batteries, ensuite ils ont commencé à ficeler un peu ce truc-là, je suis allé poser des guitares, moi j'attends avec impatience qu'ils me donnent des nouvelles là, il paraît qu'il n'y a plus que les voix de Walter à poser, et après on est bon, enfin il faut encore que Alain mixe et masterise ça, mais il y a la rage, voilà, il y a la rage qui arrive là, incessamment sous peu, le nouveau titre de Café Bertrand, Et puis il y a un disque aussi dans la foulée. Voilà,
voilà,
on se pose, il écrit. Pour revenir rapidement à ça tout à l'heure, ben moi quand il écrit et qu'il arrive avec sa chanson, sa guitare, en général ça m'inspire genre 3 ou 4 arrangements tout de suite. En général il y en a un qui dit « Je veux ça, tu les gardes !» On est hyper complémentaires, ouais, les quatre, hein, mais tous les deux aussi, je suis aussi chanteur de mon côté. Yuri aussi d'ailleurs fait aussi le chanteur autant que batteur, on est tous très polyvalents. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de truc où en général il arrive avec lui, oh, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Et moi dans la foulée après je suis possédé par ses riffs. Et donc, c'est comme ça que ça rebondit. Donc voilà, La Rage arrive bientôt.
Ouais.
Et puis, le prochain album, on vous tient au courant et on reviendra avec grand plaisir. Merci, Fréquence Mistral. Merci à toi, Jean-Marc.
Ben, merci à vous. La porte et les studios vous sont ouverts. À bientôt. Merci à vous.
Merci à toi.